Il y a un mot qu'on utilise dans la langue française, peut-être un peu moins quotidiennement, le mot colloque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. On peut lui trouver quelques synonymes, comme par exemple un congrès, un séminaire, une table ronde, une conférence. Le mot colloque vient de la juxtaposition de deux mots latins. Colloqui, qui veut dire parler, et cum, qui veut dire avec, parler avec. C'est donc dire qu'il y a un autre aspect à l'idée du colloque qui s'ajoute à l'idée simplement d'une conférence ou d'un congrès, alors que parfois il y a quelqu'un qui va parler, puis il y a des membres du monde qui écoutent. Quand on participe à un colloque, il y a un aspect là, d'une conversation qui a lieu, il y a un entretien qui se fait entre deux personnes ou entre deux groupes. Il y a donc quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre qui m'est partagé, une connaissance, une expérience, une habileté. Et le contraire est vrai aussi, je peux avoir moi-même une connaissance particulière, je la partage avec l'autre et elle appartient maintenant à l'autre. C'en est même venu aussi à désigner le mot colloque, un entretien spirituel entre deux personnes, on peut bien le comprendre, et aussi entre nous et Dieu. Est-ce que c'est pas ça justement la prière, d'avoir un colloque spirituel avec Dieu? Il nous partage quelque chose qui est sien, il nous le donne. Et nous donnons notre petitesse, notre faiblesse, tout ce que nous sommes, y compris parfois même seulement nos péchés, et on l'offre au Seigneur dans la prière. Il s'agit bien aussi d'un colloque spirituel. Et pour que ce soit authentique, il faut y mettre du cœur. Si le cœur n'y est pas, ce n'est pas un vrai entretien spirituel. On parle beaucoup de cœur cette semaine. Ça a été le sujet presque tous les jours, n'est-ce pas? Ça l'est encore ce matin, ne soyez pas étonnés, on a encore un récit dans la première lecture qui nous raconte un autre épisode de la vie du grand roi Salomon, le sage Salomon. Et là, le pauvre sage Salomon est en train de descendre rapidement. Et on le voit aujourd'hui, demain nous n'entendrons pas le texte de celui qui va prendre la relève de Salomon, de Jéroboam, mais aujourd'hui vraiment on ne peut pas dire là, qu'on termine sur... une note positive avec ce grand roi Salomon qui, maintenant, semble-t-il, commence à s'éloigner du Seigneur. À trois reprises, on le dit dans le texte ce matin, n'est-ce pas? Et il se détourne du Seigneur et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur. Et si donc le cœur n'y est plus, peut-être qu'il est en train de perdre la faveur de Dieu. Pourquoi perd-il la faveur de Dieu? À cause des femmes. Non, pas parce que vous, les femmes, vous êtes responsables de quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, vraiment, Salomon exagère. C'est pas écrit ici, on l'a pas entendu dans le texte, mais les versets qui précèdent, si vous allez voir votre Bible à la maison, les versets qui précèdent la lecture d'aujourd'hui, on nous informe de la vie personnelle de Salomon. Salomon avait, au moment où nous entendons ce texte-là, environ 1000 partenaires, si on additionne ses épouses et ses concubines. Et toutes ces femmes, clairement, n'étaient pas toutes israélites, issues du peuple de Dieu. Plusieurs appartenaient à d'autres peuples païens. Et là, le roi Salomon veut accommoder les religions de ces dames qui sont à son service, mais aussi lui-même commence à s'intéresser à ces dieux païens. Et alors, son cœur n'est plus totalement au Seigneur. Sans même nous en rendre compte, nous avons vu cette semaine d'où est parti Salomon. Alors, cette grande sagesse qui était la sienne et qui nous est apparue clairement dans sa rencontre avec la reine de Saba. Après ça, on voit dans les versets qui suivent cette grande richesse, un homme extrêmement riche, parce qu'il est béni par cette sagesse qui lui est donnée et qui est reconnue par le monde entier. Et là, on voit aujourd'hui que cette polygamie dans laquelle il s'enfonce l'amène vers l'idolâtrie et donc l'éloigne du Seigneur parce que le cœur n'y est plus. On voit tout le contraire dans le texte de l'Évangile. Il y a ici une païenne, une syro-phénicienne de naissance, donc une dame qui aurait dû être reconnue comme étant exclue d'une relation avec Dieu. Et même Jésus, de prime abord, semble reconnaître cet état de fait au départ, lorsque cette femme implore que sa jeune fille soit libérée d'un démon, il semble dire qu'il n'est venu que pour ceux qui appartiennent à ceux à l'intérieur du groupe duquel lui-même est né. Mais voyant le cœur de cette femme, il en est remué et il lui accorde ce qu'elle avait demandé. Et pourquoi donc? Eh bien, je viens juste de le dire. Le cœur de la syro-phénicienne était vraiment tourné vers Dieu. Si on veut parler d'un autre épisode de quelqu'un qui était tourné vers Dieu, on peut bien penser à la scène du jour, sainte scolastique, sœur jumelle du grand saint Benoît, fondateur de la communauté des bénédictins. Alors, on sait très peu de choses au sujet de sainte scolastique, mais un épisode nous est raconté dans la biographie de saint Benoît, écrite par le pape saint Grégoire le Grand, qui nous raconte que sainte scolastique et saint Benoît avaient l'habitude, une fois par année, de se rencontrer pour un colloque spirituel, un entretien spirituel qui se prolongeait pendant toute la journée. Or, lors l'une de ces rencontres, sainte scolastique avait imploré son frère de bien vouloir prolonger leur entretien alors que le soleil était sur le point de se coucher. Les règlements étant les règlements pour les moines, alors saint Benoît disait, il n'y en est pas question, chère sœur, tu sais très bien quelles sont les règles, je dois rentrer au monastère. Sainte scolastique se met donc en prière, se joint les mains, baisse la tête, fait une prière vers le Seigneur et soudainement, un terrible orage se déclare à l'extérieur et saint Benoît dit à sa sœur, « Mais qu'as-tu fait là? » Alors, leur entretien se prolonge toute la nuit jusqu'au lendemain matin, un colloque spirituel où chacun parle de ce qui les édifie intérieurement. Les événements font en sorte que seulement 3 jours plus tard, saint scolastique va mourir. Apprenant cela, saint Benoît décide de faire inhumer sa sœur dans le tombeau qui lui était destiné à lui-même. Et il ne faut que quelques semaines seulement pour qu'ensuite ce soit saint Benoît aussi qui meure. La prière de sainte scolastique, qui apparemment semblait contredire les règlements qui avaient été établis pour le bon fonctionnement des monastères, avait été entendue par le Seigneur de la même manière que la prière de la païenne, la syro-phénicienne, avait aussi vu son vœu exaucé. Pourquoi? Parce que le cœur de ces deux dames était totalement tourné vers le Seigneur. Ainsi donc, frères et sœurs, si parfois il nous arrive de penser que notre prière n'est pas aussi bonne qu'on aimerait, il faut être aussi persévérant que l'a été la païenne et sainte scolastique, demandons avec le cœur et le Seigneur saura bien nous exaucer. Amen.